Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Eh bien, nous allons parler des érosions. Comment lutter contre les érosions qui menacent les villes de la RDC? On en parle aujourd'hui avec Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Michel Ouyumbu, bonjour.
Bonjour,
bienvenue dans cette émission. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde. Tati Mapuko assure la réalisation de cette émission. Marcel Ngombo assure la coordination. Jody Daniel Keshama au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Actions au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Plus de 300 têtes d'érosion menacent plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, dans la capitale, selon des sources bien informées. Le même constat est fait à Kananga, Lisala, ainsi que dans d'autres villes de la RDC, où les têtes d'érosion avancent de manière dangereuse. La situation est dramatique, surtout en saison des pluies. Quelles sont les dispositions prises pour lutter contre les érosions dans les grandes villes de la République démocratique du Congo? Quelle est la situation chez vous? Vous avez des témoignages, vous avez des préoccupations. N'hésitez pas de nous écrire à service@radiookapi.net. Et quelles sont les techniques que les communautés peuvent utiliser pour stopper l'avancée de ces érosions? Michel Ouyumbu est président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Michel Ouyumbu, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, nous parlons des érosions. D'abord, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on entend par érosion. On parle des érosions, on parle des têtes d'érosion. De quoi s'agit-il?
Merci beaucoup, monsieur Jody, encore une fois de plus, de nous avoir associés à ce débat sur les érosions, qui fait partie évidemment du secteur de l'ingénierie, du bâtiment et des travaux publics. Alors, pour commencer, je voudrais essayer d'une manière bref, de donner une définition un peu plus simple de ce qu'on entend par l'érosion. Je voudrais dire qu'une érosion, d'une manière générale, quand bien même le terme érosion est utilisé dans beaucoup de médecines, même en économie, on parle de l'érosion monétaire, même dans beaucoup d'autres domaines, mais chez nous, dans l'ingénierie du BTP, une érosion n'est rien d'autre qu'une usure ou une transformation que les eaux ou les actions atmosphériques vont subir à l'écosse pérenne. Donc, dans le sens géomorphologique, on parle de l'érosion comme étant le processus de dégradation et de transformation des reliefs, et donc des sols, des roches, des berges ou des littoraux, et qui sont causés par des agents extérieurs. Alors, pour les cas qui nous concernent, il s'agit donc des érosions du sol, qui sont causés généralement par l'eau de pluie. Quand bien même on parle des érosions côtières, par exemple sur la côte Amanda, il y a les érosions côtières qui sont causées par l'eau de l'océan due aux tempêtes côtières. Alors, généralement, dans nos villes, comme vous l'avez dit tantôt, monsieur Jody, presque toutes les villes de la RDC sont sujettes aux érosions. Cela démontre clairement qu'il y a un problème de politique publique en matière de l'habitat. C'est ça le premier problème. C'est ça la première cause. Parce que qu'est-ce qui devait être fait en amont? En amont, on devait d'abord s'arranger pour que toutes les villes de la RDC disposent de ce qu'on appelle des plans d'aménagement urbain. C'est-à-dire, c'est un document qui définit comment les sols vont être affectés et quels sont les endroits où on ne peut pas faire des aménagements, quels sont les endroits où on ne peut pas construire de maisons, et quels sont les endroits où les maisons peuvent être construites. Cela met au clair, par rapport à la ville, que comment on peut donc procéder aux différents types d'aménagements qui doivent être faits.
Oui. Ah oui. Avant d'y arriver, ingénieur Uyumbu, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui cause cette dégradation du sol? Qu'est-ce qui cause généralement les érosions à Kinshasa? Il y en a déjà plus de 300 têtes, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui cause cela? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les pluies qui sont à la base de cela?
Oui, c'est pas vrai que M. Jody, ce que je voudrais expliquer, c'est pour vous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que si la ville ne dispose pas d'un plan d'aménagement urbain qui définit comment les sols doivent être affectés, dans quels sont les endroits où on peut bâtir ou les endroits où on ne peut pas bâtir, ce qu'on désigne dans notre jargon comme les endroits non édificandi et les endroits édificandi. Et cela, c'est, si vous ne définissez pas ça en amont, et que vous ne mettez pas à appliquer rigoureusement, à faire respecter les plans qui ont été dessinés à l'avance pour aménager la ville, les gens vont aller y habiter n'importe où. Et généralement, quand les gens habitent par exemple les zones collinaires, là où il y a de fortes pentes, et que ces zones collinaires-là sont dénudées, on y enlève la végétation, on construit des maisons, et à l'absence des ouvrages qui vont prendre à charge les eaux de ruissellement, vous exposez ces zones-là aux érosions ou aux têtes, au débit d'érosion qu'on appelle les têtes d'érosion. Donc, la première cause pour moi, c'est cette absence de cette politique publique qui devait définir correctement les affectations et les utilisations des sols. Ça, c'est la première cause, selon moi.
Donc en d'autres termes, on peut dire que, en d'autres termes, on peut dire que ce sont les constructions anarchiques qui sont à la base des
sols. Je vais y arriver, monsieur Jody.
Oui.
Les constructions anarchiques ne sont qu'une conséquence de manque de politique en matière de l'habitat ou en matière de l'habitat social d'une manière générale. Quand vous ne parvenez pas à définir les politiques publiques de l'habitat et à définir les politiques en ce qui concerne la production de logements sociaux, vous exposez alors la population à se débrouiller. Et quand cette population-là se débrouille, elle ne choisit pas où elle va habiter. Alors, quelles seront les conséquences? Les populations, les gens qui se débrouillent à la recherche d'un toit, ceux qui ont un besoin naturel, vont aller se percher même sur des montagnes les plus raides et des endroits qui ne sont pas aménagés au préalablement ou viabilisés. Et cela va exposer ces zones-là aux érosions.
Voilà, cela va exposer ces zones aux érosions. Donc ça veut dire qu'à Kinshasa, par exemple, les gens vont construire n'importe où dans des zones non édificantes, comme vous le dites, dans des zones où on ne devrait pas le faire. Et c'est ça qui est à la base de toutes ces situations. Alors plus de 300 têtes, c'est quand même énorme, ingénieur Michel.
Oui, vous savez, monsieur Jody, quand vous avez 300 têtes d'érosion, cela reflète la gestion chaotique de notre foncier. Ça veut dire, en réalité, nous ne gérons pas de la bonne manière le foncier. Et cette gouvernance foncière se révèle au grand jour en disant il y a 300 têtes d'érosion. C'est un désordre qui, ces têtes d'érosion ne sont que la conséquence du désordre en matière de gestion foncière. Donc, nous abandonnons la population. Où le pouvoir public abandonne la population, c'est dévoué. Ça allait n'importe comment, et même dans des endroits qui ne sont pas vulnérables aux érosions, s'il n'y a pas la viabilisation des effets, c'est-à-dire des ouvrages de drainage qui vont prendre en charge les eaux de ruissellement, il peut toujours y avoir des érosions. Donc, cette absence d'une politique globale en matière de l'habitat, où nous n'avons pas de plan d'aménagement urbain, où nous ne posons pas comme condition à chaque lotissement la viabilisation ou la construction des ouvrages d'assainissement pour prendre en charge l'évacuation ou le drainage des eaux, ça résume pas les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Bien, nous allons accueillir Adrien qui nous appelle de Kichanga, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les érosions?
Bon, j'ai très bien compris le titre. Je suis quand même intervenant en construction. Et je voudrais, comme vous l'aviez vu, dire qu'il y a tout d'abord une malfaçon, une malcompréhension de nos partenaires qui veulent construire. Quand ils vont choisir un constructeur, ils ne voient pas tout d'abord la qualification. la qualification des intervenants en construction tout d'abord est la base de l'échec ou bien de l'éboulement, de l'érosion dit dans notre ville, dans nos villes de la République démocratique du Congo.
Oui, Adrien,
cela, vous verrez qu'il y a toujours des conflits. Oui.
Adrien, dites-nous, quelle est la situation à Kichanga? Est-ce qu'on peut dire que Kichanga aussi a beaucoup de têtes d'érosion?
Oui, oui, je peux donner un exemple quand même de la maison d'un patron de Kichanga qu'on appelle Mutima. Il a construit tout d'abord un terrain qui est tout à fait sableau argilé. Un terrain là qui, je ne sais pas s'il a tiré des essais au laboratoire où maintenant cette maison, bon, d'après les analyses, quand vous les voyez même aux yeux, vous trouvez que la maison semble s'écrouler. Pourtant que c'est une maison à deux niveaux avec comble. Et quand on analyse cela, c'est pourquoi j'ai été intéressé par ce type, par ce terme.
Voilà. Et Rian, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces érosions?
Oui, pour lutter contre ces érosions, tout d'abord, j'ai prié aux autorités nationales que locales de chercher quand même une équipe technique qui pourra quand même surveiller l'urbanisme aussi auprès de notre village Kichanga. L'urbanisme est, je dirais, un peu médiocre, n'est pas amélioré. Alors vous trouvez les constructeurs, vous trouvez quelqu'un qui vient de faire au moins 2 années à la formation professionnelle. Il s'autoproclame ingénieur. Quand il s'autoproclame maintenant, les gens ont confiance en lui. Il faut commencer à lui faire des travaux. Il exécute d'une manière là charlatante.
Bien, merci Adrien de Kichanga. Nous avons en ligne Marie-Jeanne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les érosions? D'abord, à Kananga, comment se présente la situation? Est-ce que Kananga aussi est menacée par les érosions?
Oui, vraiment, la ville de Kananga est menacée vraiment par plusieurs têtes d'érosion. Ici, sur place, nous pouvons plus même de 200 têtes d'érosion ici au Kasaï central. Mmh. Vraiment, c'est vraiment une situation qui nous acquiert vraiment ici.
Et quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Bon, ici, ma question, mon intervention était par rapport d'abord à l'origine de ces érosions-là. Mmh. Nous avons trouvé que dans le temps, avant d'ouvrir un nouveau quartier, il y avait d'abord l'étude de ces milliers-là. C'est quand vous étudiez les milliers, comment est-ce que l'eau de couler, comment est-ce que l'eau usée pouvait couler, là facilement vous pouvez ouvrir le quartier, disons à la longue nous n'aurons pas de risques tels que têtes d'érosion et autres. Maintenant, actuellement dans nos milieux, les quartiers sont ouverts vaille que vaille. Il n'y a pas d'étude du milieu.
Oui, Marie-Jeanne, il y a quelques soucis au niveau de la communication. Désolé, on l'a perdu. Michel, ingénieur Michel Ouyumbu, vous avez suivi. À vous la parole.
Oui, mais c'est exactement ce que je disais tantôt, M. Joby. J'ai bien suivi l'intervention de madame. Donc, vous avez compris que le problème, c'est au niveau de la création de lotissement et au niveau de la viabilisation de ce lotissement. Quand on veut créer un lotissement, c'est sur un endroit édificable que ce lotissement est créé. C'est la première préoccupation. Et pour le savoir, on devait se référer à un plan d'aménagement de la ville qui malheureusement n'existe pas. Qui devait définir si à cet endroit-là, on peut bâtir des maisons ou à cet endroit-là, on peut, par exemple, faire des activités agricoles. Parce que nous avons tendance à ne voir que les constructions anarchiques. Mais laisse-moi vous dire, M. Joly, que dans des collines, dans des zones collinaires où les activités agricoles sont pratiquées, cela peut aussi être la source où les obstacles être à la base des grandes érosions. Si vous êtes sur une colline et que vous mettez à enlever toute la couverture végétale de la colline, qui favorise d'une part, qui réduit la vitesse de ruissellement des eaux de pluie, d'une part, d'autre part, qui favorise l'infiltration des eaux dans le sol, ces sites-là, une fois que les activités agricoles, la grande dépense, même les activités artisanales, peuvent être à la base de ces érosions-là. Donc, il est clair que si nous ne définissons pas de bonnes politiques en matière de l'habitat et que nous ne mettons pas à les appliquer correctement, nous aurons toujours des problèmes de tête d'érosion dans toute la ville. Et vous, M. Joly, si aujourd'hui on peut faire un bilan de cette érosion que nous avons aujourd'hui, nous pouvons reculer 10 ans avant, 20 ans avant, vous allez vous rendre compte qu'on en avait autant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la démographie qui augmente dans toutes les villes de la RDC. Aujourd'hui, le rapport entre urbain et rural, je crois, est passé. Il est à 2,50 et 3,50. Aujourd'hui, nous sommes presque à un rapport qui avoisine les 40% sur une population totale de 80 millions que nous avons. Nous savons ce qui se passe au pays. Les gens ont tendance à venir occuper maintenant les espaces urbains. Alors, quand ils arrivent dans les espaces urbains, cette pression démographique-là, à l'exode, dû à un taux de natalité élevé que nous avons autour de 4-5%, le besoin de logement entre aux clients d'une part, et d'autre part, l'absence d'une politique en matière de production de ces unités de logement, cette pression fait que les gens se débrouillent eux-mêmes et les quartiers, sont généralement, les lotissements se créent même avec la complicité des chefs coutumiers. Et pendant que les lotissements sont créés,
Michel Oyumbo. Michel Oyumbo, pourquoi les gens doivent se débrouiller eux-mêmes pour trouver un terrain et pourtant il y a un ministère qui s'occupe de cela?
Oui, mais parce que vous pouvez vous rendre compte, monsieur, vous pouvez vous rendre compte que les lotissements, si 10 lotissements qui sont créés, je ne pense pas que 5 lotissements soient créés par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. La plupart des lotissements que nous avons dans nos centres urbains, créé par le chef coutumier. Il y a un problème sur la gouvernance de frontières, parce que pour le chef coutumier, les terres sont les terres de leurs ancêtres et ils ont droit de les loter. Alors que pour l'État, les sommes et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, c'est un problème très complexe pour lequel on doit trouver des solutions. Au niveau de la gouvernance de frontières, d'une part, de part, trouver des solutions au niveau des politiques en matière d'aménagement.
Michel Oyumbo. Oui.
S'il
y a aujourd'hui des occupations anarchiques des terres, les gens achètent des terrains partout, ils négocient avec les chefs coutumiers qui, c'est parce que le gouvernement n'a jamais loti, on n'a jamais appris que le gouvernement est en train de lotir officiellement dans tel ou tel quartier.
Non, il y a des quartiers qui sont lotis officiellement, mais par rapport à la demande, l'offre est vraiment inférieure à la demande. Donc, l'offre du gouvernement est pas inférieure à la demande. Ce qui fait que d'autres quartiers sont en train d'être lotis par les champs coutumiers. Mais ce qui est curieux, c'est que même les quartiers qui sont lotis par les champs coutumiers, les gens qui vont s'installer finissent toujours par obtenir des titres de propriété. Ce qui est vraiment dommage.
Alors, avant de faire les lotissements, vous avez suivi Madame Jeanne de Kananga qui nous a dit qu'avant de lotir quelque part, il faut des études au préalable, faire des études du sol au préalable.
Oui, c'est vraiment, quand je parle d'un plan d'aménagement ou de schéma directeur d'aménagement, dans ce schéma-là, parce qu'on connaît le relief du sol, on connaît la nature du sol, on peut déjà définir certaines zones et dire que ce sont des zones sur lesquelles on ne peut pas occuper, étant donné la relief du sol, étant donné les caractéristiques de ce sol-là. Donc, si on disposait de différents aménagements, on aurait déjà eu une idée sur les différentes zones. Ça, c'est de un. Et de deux, si on se mettait à exécuter ce plan d'aménagement d'une manière correcte, en faisant d'abord, j'insiste sur la viabilisation, mais je dis, même les quartiers qui sont lotis officiellement par l'État, rares sont les quartiers où, avant qu'on vienne construire des maisons, vous avez un réseau d'assainissement, c'est-à-dire vous avez des caniveaux qui sont déjà bien construits pour prendre à charge les eaux de pluie. Maintenant, les quartiers qui sont lotis d'une manière officielle par les pouvoirs publics, vous verrez tout simplement qu'on a tracé les rues et on laisse les gens construire leurs maisons n'importe comment et il n'y a pas au préalable un réseau d'assainissement pour prendre à charge les évacuations des eaux pluviales et des eaux usées. Non, c'est là. Comme ça se fait de cette manière-là, ce qui fait que nous avons toujours un problème, d'une part, avec la pression démographique, le besoin en logement, que l'État n'arrive pas à couvrir, le besoin en propriété immobilière, que l'État ne parvient pas à satisfaire la demande, l'offre étant inférieure à la demande, et les chefs coutumiers qui se mêlent, le manque de viabilisation, tout cela mis ensemble, voilà une bonne recette pour les différentes têtes d'érosion que vous observez partout dans les villes.
Bien, on va accueillir Didier depuis Angambi, éminence Mwamba de Kasumbalesa. Didier, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Comment lutter contre les érosions qui menacent les grandes villes de la RDC? On vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, par rapport à ma façon de voir, moi je pense que si vraiment notre gouvernement est soucieux de ces villes, il peut, n'est-ce pas, organiser une équipe qui sera composée de trois groupes. Donc le premier groupe peut être composé par les pédologues. Les pédologues feront quoi? Ils vont descendre partout où il se trouve les érosions et ils vont prélever les échantillons des sols pour amener ça au laboratoire afin de faire les analyses. Et le deuxième groupe sera composé des ingénieurs forestiers et à leur tour vont maintenant planter les arbres soit à taille érosive ou soit à croissance rapide. Les arbres, les platés là, seront, n'est-ce pas, en fonction des résultats des pédologues. Donc, lorsqu'il y a les arbres, ça va permettre l'infiltration au détriment des ruissellements. Il y a aussi les arbres à taille érosive qui peuvent intervenir pour lutter contre ça. Ma troisième façon de voir, c'est quoi? Le troisième groupe peut, n'est-ce pas, être intéressé aux canalisations de l'eau de pluie, mais aussi créer les puits de rotation d'eau. Bon, ce que moi je regrette, c'est que notre gouvernement n'investit pas à de pareilles choses. On va seulement parler, perdre du temps comme ça, il n'y a pas de solution. Mais ce sont des choses qu'on doit prendre en compte, surtout à l'Issala, quand j'ai été là une fois. Je vous dis, après au moins 5 ans, l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala, sera vraiment disparu de la carte de la RDC. Donc vraiment, il faut une prise de conscience auprès du gouvernement central pour trouver des solutions à de pareilles choses.
Bien, merci. La ville de Lissala risque de disparaître tellement qu'il y a beaucoup de têtes d'érosion là-bas. Merci d'avoir appelé Didier. Éminence Mwamba, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Dodi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les érosions?
Ah oui monsieur, par rapport au sujet, je dirais que d'autres érosions sont créées que par nos autorités en place. C'est-à-dire, les autorités, ils commencent les travaux routiers près de la saison pluvieuse et n'arrivent pas à finaliser ces travaux-là. Ça aussi, ça crée aussi des érosions. Dans nos villes. Comme ici, par exemple, à côté de la rue principale, il y a ces trois érosions qui menacent la route à chaque année. Il faut qu'il y ait toujours des pertes en vie, même. Ouais. Maintenant, quand nous parlons là, la route était bien améliorée, mais les érosions sont restées encore, ne sont pas bien améliorées aussi. La saison de plusieurs s'annonce, mais les Chinois recommencent encore les travaux par rapport maintenant, aux érosions. Maintenant, ce que nous demandons aux autorités, et de commencer les travaux ou bien avant d'asphalter une route ou bien une avenue. Ils commencent d'abord à éradiquer d'abord les situations des érosions et après s'attaquer maintenant aux asphaltages et autres choses. Et le faire aussi à temps réel. C'est ce que demande au gouvernement.
Bien, merci. Et donc, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux érosions?
Par rapport aux érosions, moi, je dirais que c'est l'État qui est le patron. Avant de l'ouverture et milieu, il fallait que les gens habilités qui peuvent venir, les ingénieurs, faire le titre de faisabilité du sol, voir dans quel sol on peut construire quelle maison. Maintenant, ici, chez nous, c'est de l'anarchique, on construit n'importe où, n'importe comment, et à l'œil impuissant de l'autorité qui est l'État. C'est pourquoi nous demandons avec dernière énergie à notre gouvernement de s'atteler beaucoup sur ça. Sinon, sans lui, nous allons commencer à vendre des purs. Nous le regrettons vraiment. Moi, je suis à Lubumbashi, mais je suis de Kabinda, dans le quartier Congo à Kabinda. Il y avait eu tout un quartier qui était englouti parce que quand nous étions encore enfants, on nous avait dit qu'on avait dit de ne pas construire là-bas par les Blancs, les Belges, parce qu'ils avaient déjà fait l'étude du milieu. C'était un sol qui ne pouvait pas vraiment supporter des constructions. Mais tellement que les gens n'ont pas de moyens, l'État a aussi brandi. Nous avions construit comme conséquence, les gens ont perdu l'argent, ils ont perdu des biens, voire même des personnes. Alors notre souci majeur et ardent est que l'État puisse prendre sa responsabilité en main. Sinon, nous allons toujours commencer à avoir des cas pareils.
Bien, merci. Charlie, vous êtes en ligne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à tous les amis de la radio Capé, Charlie Maxwell Mouya Kalambay.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux têtes d'érosion? On a appris aussi que la ville de Kananga a beaucoup de soucis. Il y a des soucis avec votre ligne téléphonique, Charlie.
Oui, bien entendu, le constat est tellement alarmant ici à Kananga. Nous avons constaté que depuis un certain moment, il y a des endroits où on a érigé des maisons. Bon, mais depuis l'époque des Belges, il était prévu que dans ces endroits, qu'on ne puisse pas faire un lotissement. Allez-y comprendre que de nos jours, on a érigé des maisons en ces endroits, sans pour autant tenir même compte de l'urbanisme, sans pour autant tenir compte de la canalisation d'eau, et tant bien d'autres aspects de l'urbanisme, de l'urbanisation.
Et là, c'est dans quelle commune? Dans quelle commune précisément?
Bon, par exemple, aujourd'hui, je prends la commune de Kananga, du côté de l'aéroport de Kananga. Mmh. Il y a un quartier qu'on appelle Kabanza. Dans ce quartier-là, normalement, il était prévu à cet endroit-là qu'on ne puisse pas faire un lotissement. Vous prenez aussi les quartiers qui est à côté de la gare, juste des maisons, des lotissements qu'on a fait en force de la base militaire de Kananga. Il y a aussi un lotissement qui s'est fait à commencer par Kacherté, passant les terrains de Saint-Luc jusqu'au niveau de l'ISP Kananga. On a érigé des maisons. Les auteurs même de ces maisons-là, on n'a pas tenu compte de l'urbanisme. Ce qui est alarmant aujourd'hui, c'est parce que tous ceux qui ont profité de ces maisons, ce sont des hommes politiques, soit des grands commerçants qui sont connus sur la ville. Allez-y comprendre maintenant les conséquences. Ce sont maintenant des érosions qui sont en train de piller ça et là. Et la population est devenue incapable et abandonnée à son triste sort.
Et là, Kananga, quels sont les efforts qu'on réalise pour lutter contre ces érosions-là?
J'ai un peu de problème avec la ligne aujourd'hui, je n'ai pas entendu.
Oui, je disais, qu'est-ce qui est fait sur place pour lutter contre les érosions à Kananga?
En fait, le gouvernement provincial est en train de faire de son mieux pour lutter contre les érosions. Et aussi, il y a une sensibilisation dans les quartiers. Les autorités locales des quartiers sont en train de faire assez que la population elle-même se prenne en charge. Ici, il y a des jeunes qui sont en train de travailler dans des routes, dans des rues principales du quartier. Tout ça pour lutter contre les érosions et puis canaliser les eaux vers un endroit qui peut accueillir un bassin d'eau consistant.
Nous parlons de la lutte contre les érosions qui menacent nos villes. Comment lutter contre cela? Des questions et préoccupations. Eh bien, vous pouvez intervenir dans cette émission à nos écrivains à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Bien, ingénieur Michel Ouyumbu, vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Vous avez suivi Didier depuis Yangambi, a fait des propositions concrètes pour lutter contre les érosions. Il dit qu'il faut recourir, faire appel aux pédologues, qui faire des analyses du sol au labo, au laboratoire, et puis faire intervenir les ingénieurs forestiers pour planter les arbres et puis aménager les canalisations des eaux des pluies. Ingénieur Michel.
Merci beaucoup, M. Chobi. Ça, c'est une très bonne contribution de M. Didier depuis Yangambi, je crois. Mm-hmm. Alors, mais je pense qu'en matière de lutte anti-érosive, on notait, M. Chobi, qu'il y a deux manières de lutter contre les érosions. La façon, c'est la lutte préventive, c'est-à-dire prévoir ces érosions-là pour les éviter. Et cette première manière, évidemment, c'est la manière la moins coûteuse. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas l'option que nous avons choisie. C'est beaucoup plus facile de vacciner les enfants contre la polio parce que c'est le vaccin qui va prévenir cette maladie-là. Au lieu de venir chercher à guérir l'enfant alors que l'enfant est attrapé, est déjà frappé par cette maladie. Vous voyez qu'il y a cette philosophie-là. La lutte préventive est beaucoup plus importante, beaucoup moins onéreux que la lutte curative. Et dans la lutte préventive, c'est jusque là la solution que j'étais en train de ce dont j'étais en train de parler. C'est-à-dire avoir des plans d'aménagement pour qu'ils soient construits et avoir une législation, une réglementation pour que quand un lotissement est créé, que ce lotissement soit viabilisé avant la construction des maisons et par une politique de production des unités de logement, ces unités de logement sociaux-là puissent résoudre le problème de demande en matière de logement pour éviter que la population se débrouille. Voilà une batterie de mesures qui vont nous aider à prévoir les érosions. Mais en plus de ça, ce qui est plus coûteux, évidemment, c'est ce qu'on appelle la lutte curative. Les érosions, les telles érosions apparaissent, il faut donc intervenir. Et là, vous avez toute une batterie de moyens que l'on peut, commençant par le moyen le plus élémentaire, jusqu'au moyen le plus complet d'ingénierie qu'on peut utiliser. Vous n'allez quand même pas planter des arbres sur un site que vous avez ayant une horizon de 30 mètres. Ça serait bien. Vous devez exécuter des travaux d'ingénierie et ensuite essayer de trouver des méthodes pour arrêter, par exemple, pour réduire la vitesse d'écoulement des eaux. Donc, les méthodes sont, c'est toute une batterie de méthodes qu'on applique au cas par cas par rapport aux dégâts ou par rapport à l'ampleur de l'érosion. Ces méthodes sont très nombreuses. Commencer par la méthode agricole, où on peut planter des arbres, ainsi de suite, qui vont retenir le sol et qui vont faciliter l'infiltration des eaux de ruissellement pour réduire l'érosion du sol, jusqu'aux méthodes plus complexes d'ingénierie, par exemple le géosynthétique ou le génie civil, où l'on dispose des ouvrages et d'assainissement pour prendre à charge ces eaux de pluie. Mais aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est le fait que quand une érosion atteint déjà un point culminant, et on doit apporter la méthode le plus complexe d'ingénierie du BTP pour trouver des solutions, je pense que M. Jody, ce sont des millions de dollars qui sont bloqués. Je me souviens de l'érosion Mataba ou de la trêve de Selemao qui ont coûté autour de 10 millions, 15, 20 millions de dollars. De quoi on pouvait produire 50 écoles de primaire pour les enfants pour gérer le problème des manques d'infrastructures scolaires, par exemple.
Ingénieur Michel, lorsqu'on se retrouve devant un trou béant de plus de 30 mètres de profondeur, les maisons sont déjà englouties. Alors, à ce moment-là, comment arriver à arrêter la progression de cette érosion-là, surtout avec le retour des pluies?
Là, vous êtes obligé d'utiliser des gros moyens, parce qu'on dit au grand mot les grands remèdes. Quand vous apprenez déjà cette ampleur de problème, vous devez construire des ouvrages de drainage. Et ces ouvrages leur coûtent extrêmement cher pour essayer de prendre en charge ces eaux de pluie. Et en plus de ça, vous devez essayer de planter sur ces différentes zones-là pour réduire tant soit peu la vitesse de l'écoulement des eaux, mais aussi améliorer les infiltrations d'eau dans les sols. Bon. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi chez nous, nous avons choisi les moyens les plus compliqués. Les moyens les plus compliqués, alors que nous n'avons. À quoi ça sert d'engloutir 10 millions de dollars sur des pertes d'érosion, alors qu'on aurait pu utiliser des petits moyens pour prévenir ces érosions-là, ou les éviter d'une manière, et prendre cet argent, et, par exemple, dans la construction des vases sanitaires, par exemple. Donc, ce que nous sommes en train de dépenser année par année sur des luttes anti-érosion, c'est extrêmement beaucoup, mais nous préférons continuer à dépenser cet argent pour résoudre les désordres que nous ne pouvons pas prévenir à l'avance. C'est ce qui est regrettable, malheureusement.
Ingénieur Michel, vous dites qu'il y a deux façons de lutter contre les érosions. Il y a d'abord la lutte préventive et la lutte curative. Alors, dans la lutte préventive, quelles sont les choses à faire concrètement pour prévenir les érosions?
Dans la lutte préventive, il faut avoir des plans d'aménagement des villes pour éviter que les zones vulnérables aux érosions ne soient pas aménagées, qu'elles ne soient pas occupées, que ces zones-là soit sécurisé et reste comme tel. Ça, c'est du point de vue de la prévention. Du point de vue de la prévention aussi, il fait en sorte que tout quartier qui est aménagé dispose d'un réseau d'évacuation des eaux de pluie, et que ce réseau-là, qui va prendre à charge les eaux de pluie, soit complètement entretenu ou régulièrement entretenu, que ce réseau puisse fonctionner au maximum de sa capacité. Donc, quand les eaux de pluie sont prises en charge, quand les zones de mobilité camping ne sont pas envahies par des constructions, quand on pense à une bonne politique de production pardon, de logements sociaux pour que les populations puissent trouver un logis, voilà toute une batterie de mesures qu'on peut prendre pour éviter qu'il y ait le phénomène d'érosion. Ça, c'est au niveau de la prévention.
Voilà.
Sur la prévention, il y a toute une matière de mesures compétentes.
Oui.
Pourquoi les gens vont habiter sur les collines? Mais c'est parce que vous ne leur donnez pas un logis. Il faut donc leur donner un logis et les empêcher d'aller habiter dans les collines.
Bien.
Pourquoi les gens vont créer des lotissements avec les jeunes coutumiers? Mais c'est parce que l'autorité publique ne crée pas assez de lotissements pour répondre à la demande en matière de lotissements. Pourquoi les gens doivent se débrouiller eux-mêmes pour avoir... moi, je vis des cas où c'est la population qui s'est débrouillée pour construire des ouvrages d'assainissement. Ça, c'est pas normal. Ils vont le construire comment? Les ouvrages qui vont le construire ont été étudiés par qui? Dimensionnés par qui? Ces ouvrages-là seront-ils à mesure de prendre en charge les eaux pluviales? Là, tout un tas de choses où la population, en se sentant abandonnée à elle, est en train de se débrouiller. Et comme je vous ai dit tantôt, les résultats de cette façon de se débrouiller, eh bien, c'est les différentes dérosions que nous trouvons partout dans nos villes.
Nous avons en ligne un auditeur, Gilbert de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi, et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bien, Gilbert, nous parlons de la lutte contre les érosions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Ok, monsieur Jodi, je vous remercie pour l'octroi de la parole. À mon avis, je trouve que pour lutter contre les érosions, il faut qu'il y ait une bonne canalisation des eaux, hein, pour qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Parce que vous voyez, lorsque l'eau stagne, au fur et à mesure, cela peut provoquer encore ou peut encore aggraver l'érosion. En dehors de ça, il faudrait aussi que la population puisse adopter un bon comportement, le comportement que j'appelle le comportement d'un éco-citoyen. Parce que nous voyons dans notre pays, je trouve un sous-développement mental, dans le sens que vous trouvez la population, lorsque la personne est sur la route, la personne ne sait pas que c'est la voie publique, quel comportement je peux adopter. Il jette de n'importe quoi. Et aussi, ce que je peux demander encore au gouvernement, si on procède aussi par l'implantation de certains arbres qui peuvent encore diminuer un peu les érosions, ça peut être encore une bonne chose. C'est ça, en quelques mots, ma très petite contribution, monsieur le journaliste. Je vous remercie.
Bien, merci Gilbert de Kananga. Jean Mangalibi, bonjour.
Bonjour, Kabat.
Vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les érosions qui menacent les villes de la RDC. À Kinshasa, on a dénombré déjà plus de 300 têtes d'érosion. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour lutter contre l'avancée de ces têtes d'érosion?
Bon, d'abord, le premier élément, la manière dont Kinshasa a été conçu par les colonisateurs. Il y a des endroits normalement qu'on ne devait pas construire. Je prends les cas à partir de Binta Pigeon, Maman Mobutu et au-delà. Mais on va se rendre compte d'une chose aujourd'hui, on a construit. On a construit comment? Parce que normalement, on doit arriver à savoir que l'important de l'arbre, ou même de l'herbe qu'on voit là, c'est pour pouvoir retenir la terre. Mais quand l'homme enlève l'herbe, ce qui veut dire la terre est maintenant nue. La finalité, il va y avoir l'estivage et la finalité, nous sommes d'avoir les cas d'érosion qu'on vit aujourd'hui. En sachant que dans toutes ces zones là où il y a plein de collines, il y a un problème au niveau de l'urbanisation. Je prends le cas de Mamoubutu, une cité qui a été urbanisée. Mmh. Si on a eu à avoir des érosions, c'est parce que vers le bas, l'autorité n'a pas suivi par rapport à veiller sur la manière dont la population se comporte.
Et pourtant, Maman Mobutu, on a l'impression que le quartier, c'est un coin bien urbanisé, avec des belles maisons, des belles routes.
Ben, ça a été bien urbanisé, mais vers les bas, il y a des cités anarchiques qui se sont créées, et plutôt des quartiers anarchiques qui se sont créés. Et ces quartiers-là, normalement, ils ont eu à fragiliser. Même les pierres qu'on avait mis pour pouvoir amortir la vitesse des eaux. Conséquence, on vit ce qu'on est en train de vivre. Je prends le cas de Mamoubutu, on va au plateau des professeurs, c'est presque la même chose. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, on a des ministères, surtout le ministère de l'urbanisme et habitat. Quand nous laissons la population arriver avant l'État, dans des coins où il y a des collines, nous payons les prix. tant que jusqu'aujourd'hui ça continue. Quand vous allez du côté d'un Célé, en face des Daipen, vous allez voir c'est la même chose. Les mêmes erreurs qu'on a eu à connaître dans le passé, c'est ce qu'on continue à vivre jusqu'aujourd'hui. C'est là où l'État doit arriver à dire, oh, on a eu à avoir tellement de dégâts par rapport au problème des érosions, et que pour stopper, moi je dois commencer à passer avant la population.
Jean Mangali, mais prenons le cas de l'université de Kinshasa qui est aussi menacée. On peut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de canalisation ou c'est parce que sur une zone collinaire et les gens construisent tout autour.
D'abord, ce sont des zones collinaires, ça c'est le premier élément. Des deux, ce sont des quartiers qui se créent où l'État vient après. Alors d'abord, quand vous regardez, la majorité des maisons qui sont autour de l'université, de ce site-là, les terrains appartiennent d'abord à l'État. Mais, étant donné l'État au niveau du Congo continue à dormir, conséquence, la population vient, ils construisent n'importe comment, il y a pas de canalisation. Et la finalité, on vit. Là, normalement, sachez bien que là, je crois que l'autorité est en train de nous écouter. En face des cliniques universitaires, nous aurons beaucoup de têtes d'érosion qui vont encore se créer. Parce que cette zone-là qui était gardée où il y avait la végétation, aujourd'hui, la population a construit. Conséquence, bon, nous paierons les prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'État de comprendre qu'aujourd'hui, la politique, ou partout dans le monde, la politique est l'art de gérer la cité. Mais si la politique est là de gérer la cité, la population entre avant les politiques. Conséquence, étant donné qu'il n'y a pas un programme, je peux dire par rapport à l'urbanisation, il n'y a pas un programme assez solide. Et tout ça, normalement, on continue à payer. On a vu par exemple les cas, bon, ça c'est pas un coin où je prends les cas de la cité du fleuve. Là, on est en train de le construire. C'est un endroit approprié? Non. On a vu l'année passée comment ça a été inondé. Tant que l'État ne prendra pas conscience, tant que l'État ne fera pas un effort pour savoir réellement que c'est lui qui est le patron du sol et du sous-sol et qui doit arriver à bien gérer le coin où les hommes doivent habiter, le coin il faut cultiver, bon, nous subissons.
Alors, Jean Mangali, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ceux qui pensent que la meilleure façon de protéger, de lutter contre les érosions, c'est qu'il faut planter les arbres, il faut protéger les tapis verts, la verdure, ça permet de raffermir le sol.
Planter les arbres, c'est parmi les solutions. Mais dans les zones collinaires, si on veut construire, il faut d'abord viabiliser. L'État vient, il fait des canalisations. Il fait passer l'eau, il fait passer l'électricité, il met même le goudron. À ce moment-là, les maisons peuvent venir. Mais aujourd'hui, on peut beaucoup planter les arbres. Je vois, par exemple, en face de Mamobutu. L'autre colline, là-bas, aujourd'hui, c'est loti. La manière dont c'est loti, même si ces gens-là plantaient des arbres, tu vas avoir. Il faut que, pour arriver on doit arriver d'abord à avoir un plan général par rapport à l'urbanisation de la ville pour de Kinshasa ou bien de la République. Et puis d'aider à savoir exactement à tel endroit comment nous devons construire. Parce que planter seul les arbres ne suffit pas. Il faut que l'homme à qui Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, y compris le savoir, qu'il sache qu'à tel endroit, si je construis, même si je mets autant d'arbres, il va avoir les cibrivages parce que quand tu vas implanter ta maison, il y aura des toitures. La finalité, l'eau des toitures va aller quelque part. Tu peux mettre les caniveaux chez toi, mais plus bas s'il n'y a pas de caniveaux, on finit par les raisons, ne commence pas par en haut, ça commence toujours par les bas.
Jean Mangali, le premier invité, Michel Oyumbu, nous a dit tout à l'heure, il y a un problème, la pression démographique à Kinshasa, par exemple, avec plus de 12 millions d'habitants, il y a un problème de logement, chacun veut avoir un lopin de terre, construire sa maison, habiter avec sa famille, alors les gens vont négocier directement avec les chefs coutumiers qui se mettent à vendre les terrains, et puis voilà, les gens construisent même à des endroits inappropriés.
Bon, je crois il y a l'élément qu'on doit arriver à savoir. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Les chefs coutumiers sont des gardiens de terre. Moi, je crois le jour où il va y avoir des lois, où les chefs coutumiers qui sont gardiens de terre, et que quand l'État veut construire, il va d'abord parler avec les chefs coutumiers, cela permettra à ce que nous arrivons à avoir des quartiers bien urbanisés et bien viabilisés. Parce que tant qu'aujourd'hui, la population doit aller directement négocier avec les chefs coutumiers. Et puis nous avons des quartiers. Va aujourd'hui à Kinpoko. Allez voir comment les gens sont en train de construire. Ils ont négocié avec les chefs coutumiers, ce qui n'est pas mauvais. Mais si l'État était le premier à aller négocier avec les chefs coutumiers, il dit par exemple, voilà, je vais lotir à cet endroit. Par rapport à la vente ou à l'aménagement que nous allons faire, vous aurez droit par exemple à 30%. Et vous verrez que, un, les chefs coutumiers vont commencer à se retrouver parce que la manière dont l'État va faire les choses, ça va être dans les normes, il y aura une valeur ajoutée. Mais tant que je vois aujourd'hui, on va des terrains à $250, un terrain. Or, si l'État passait viabilisé, ce sont des mêmes terrains qu'on peut arriver à vendre à $3,000. À $3,000, si le chef coutumier a par exemple $750, le terrain qu'il allait vendre à $250, il les revend à $750. Le tout est basé, le souci du Congo, c'est au niveau de la politique. Tant qu'il n'y aura pas une bonne politique, nous allons voir que nous allons continuer à enfoncer, parce que jusqu'aujourd'hui, par rapport à l'urbanisation, et qu'on continue à enfoncer. Exemple simple, excusez-moi. Quand on voit la manière dont Kinshasa a été urbanisé, on voit la manière dont les stations de centre ont été implantées, être dans les plans d'urbanisation de la ville de Kinshasa. On devait avoir autant de stations de centre. Tu prends la route de poids lourd. Pendant la deuxième république et la troisième république, on avait laissé pratiquement 10 mètres, si pas 20 mètres. Aujourd'hui, il reste 2 mètres. Ce qui n'est pas normal. Or, la ville normalement doit arriver à respirer. Mais tant que, on prend le cas, par exemple, de Gombe, où il y avait des villas, aujourd'hui, nous avons des immeubles. Or, dans le principe, dans l'aménagement, dans la construction, la maison occupe, si pas les 30, les 40%. Le reste, c'est verdure et autres. Maintenant, aujourd'hui, la maison, les maisons qu'on est en train de nous construire, occupent pratiquement les 80%. Conséquence, les volumes d'eau augmentent. Si les volumes d'eau augmentent, on a les mêmes caniveaux. C'est normal qu'on puisse avoir des débordements ou une inondation au niveau du je prends le cas du boulevard. Mm-hmm. On voit encore au plus bas, on voit l'avenir au niveau de Sosimat. L'autre partie derrière l'ambassade de France. Il y a même une ordonnance qui existe par rapport à la démolition de cette partie-là. Parce que quand l'eau vient au niveau de la rivière Gomba, cet endroit, ça devient un entonnoir.
Parce qu'il y a même des gens qui construisent sur les collecteurs. Les collecteurs
d'eau. Parce que l'État voit, il n'agit pas. L'État voit, il n'agit pas. C'est pour ça qu'on a toujours dit l'État doit se réveiller. Le Congo, ce n'est pas un pays où on doit faire les choses qui sont en train de se passer maintenant. Pour dire personne ne doit être au-dessus de la loi. On parlait des maisons tout à l'heure là. Tu sais que dans les temps, il y a eu un monsieur qui a pu avoir. Il était là. Il avait lui seul plus de 300 maisons. C'est pas normal. Moi, je veux bien. Mais une personne, 300 maisons. Vous trouvez ça normal? Non. Aujourd'hui, on peut arriver à dire, regarde, je veux bien que les gens investissent dans l'immobilier. Mm-hmm. Mais toi, un individu, pas une société, 300 maisons. Mm-hmm. C'est anormal. Aujourd'hui, on prend les cas aujourd'hui, on parle, qui dit érosion, dit pluie. On voit la météo. Ce que nous voulons au niveau de la météo, c'est normal. Qui ont acheté là-bas, ce sont des gens qui ont eu à diriger. En sachant qu'à côté des météos, il y a l'hôtel Okapi. Et derrière l'hôtel Okapi, il y a une érosion qui est là. Et j'y vais avoir une autre bombe à retardement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à morceler la cité des météos. C'est là où l'État doit se réveiller.
Bien, on va accueillir.
On peut beau planter.
D'accord.
On peut beau planter.
Un instant, Jean Mangali, on va accueillir un auditeur, Ngala Mouloumé, depuis Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Nous parlons de la lutte contre les érosions qui menacent Kinshasa ainsi que d'autres villes du pays. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, à mon humble avis, vraiment, je voulais juste ajouter quelque chose. Vous verrez, souvent, ceux qui croient que les érosions, ce sont des quand on construit mal quoi, le lieu, donc ça va créer un peu quoi, des érosions. Et aussi quand l'État congolais néglige ça, vraiment c'est...
Voilà, merci d'avoir appelé. Monsieur Michel Ouyumbu, les gens construisent en désordre, achètent des terrains et construisent même à des endroits non édificants. Et pourtant, on a toujours appris qu'il existe un plan d'aménagement de la ville, un plan d'aménagement de nos villes à travers la RDC, mais ce plan qui n'est jamais mis en œuvre. Ingénieur Michel Ouyumbu. Voilà, ingénieur Michel n'est plus en ligne. On va le rappeler tout à l'heure. Monsieur Jean Mangalibi, vous avez suivi la préoccupation d'Ngalamouloumé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, je parle par rapport au plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa. C'est un plan qui a eu à exister.
Qui existe toujours?
Non, ça n'existe plus. Puis c'est parce que si ça existait toujours, si vous allez s'écaper là, on n'allait pas vivre ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Ou, là où il y avait le passage piéton, les gens ont occupé leur bar jusqu'à 0 mètre de la voie destinée aux véhicules. Juste pour dire qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça existe des noms. Et à chaque commune, il y a un chef de rue, il y a un chef de quartier, il y a un bourgmestre. Mais quand on voit la manière dont les choses évoluent, on se dit qu'ils savent. Tant que ces gens-là ne prendront pas conscience de la manière dont les choses publiques sont organisées, nous payons le prix. Allez au niveau de l'hôpital de Kitambo. Excusez-moi, j'essaie de prendre plusieurs points où il y a des soucis. Hôpital de Kitambo, on laisse un terrain pour le centre de l'hôpital de Kitambo.
On a aménagé une station-service là-bas.
Mais non seulement la station de service. À l'époque de M. Kimbout, ils ont dit à l'hôtel cet endroit-là, on a tous les dossiers. Comment voulez-vous? Et quand vous, allez voir les gens qui ont acheté là-bas. Il y a que ceux qui ont la grâce d'avoir le pouvoir au pays. Il y a des ministres là-bas, il y a des généraux, il y a des magistrats. Or, ce sont eux qui devaient être les gardiens des patrimoines publics. Mais quand ils sont en train d'abuser de là où il y avait le cimetière à Truc, en face de Mama Poto, pour dire que maintenant le mot confinement qui prend de l'ampleur, Kinshasa commence à devenir hyper confiné parce que ceux qui ont la grâce d'avoir le pouvoir aujourd'hui ou les décisions cherchent à se servir.
Information. Et puis ce sont les services de l'État, les agents de l'État qui octroient des documents en bonne et due forme.
Je prends le cas de l'hôpital de Kitambo. Vous n'allez pas me dire que tous ces gens-là n'avaient pas l'information que ce terrain appartenait à l'hôpital de Kitambo. Étant donné qu'ils ont développé l'égoïsme à eux, parce que quand je prends l'hôpital de Kitambo, je prends Météo. Et aller dans Météo, vous allez voir, vous verrez, il y a Matata Mponu là, les directeurs des cabinets de Mobutu et autres, ils sont là, tout le monde est là. Pour dire que les gens qui devaient protéger, ils s'arrangent pour mettre les terrains dans un état de. Ou le bien public dans un état de délabrement, et la finalité, ils vont commencer à les vendre. C'est comme ça que le Congo a été...
Jean Mangali, on va suivre les informations tout à l'heure, on vous garde encore, on va vous donner la parole dans la deuxième partie de l'émission. Fidèles auditeurs, nous clôturons la première partie de cette émission au Capi Service, consacrée à la lutte contre les érosions qui menacent les villes de la RDC. Restez...
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment lutter contre les érosions qui menacent les villes de la RDC? Plus de 300 têtes d'érosion menacent plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, selon les informations reçues. Le constat est le même partout à travers le pays, à Kananga, à Lissala, à Kikwit et ailleurs. Il y a des têtes d'érosion un peu partout. La situation est dramatique, surtout en saison des pluies. Quelles sont les dispositions à prendre pour freiner la progression de ces érosions? Comment les prévenir? Quelles sont les techniques que les communautés peuvent utiliser pour stopper l'avancée de ces têtes d'érosion? Et voilà, autant de questions qui vont trouver des réponses dans cette émission avec nos invités. Nous retrouvons encore Jean Mangalibi, il est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Alors Jean Mangalibi, qu'est-ce qui est fait par exemple au niveau de votre structure pour sensibiliser la population par rapport à la lutte contre les érosions qui menacent nos villes?
Bon, aujourd'hui, ce n'est pas la population, on peut sensibiliser la population, mais la plus grande responsabilité, c'est au niveau de l'autorité. Parce que un endroit où c'est prévu qu'on ne devait pas construire, si les gens construisent et l'autorité vient donner les documents, Or, c'est lui qui est le protecteur. Aujourd'hui, si nous devons sensibiliser, nous devons plus arriver à sensibiliser les gens qui ont la décision. Parce que ce sont eux qui sont en train de détruire. J'ai donné le cas des météos, j'ai donné le cas des hôpital à Kitambo, quand nous allons au niveau de Beauvoir. Vous allez voir que ce sont les mêmes personnes qui sont censées les biens communs ou qui sont censées gérer certaines situations. Ce sont eux qui donnent les papiers. On peut dire aujourd'hui, bon, je sais, radio, on est sur Radio Capi. Combien de gens sont en train de Radio Capi? Étant donné, il n'y a pas d'électricité. Pour dire qu'on est confronté à toute une série de problèmes où l'autorité doit arriver à s'assumer par rapport à la grâce qu'il a d'être, je prends le cas chef de l'État, gouverneur, les titres qu'on veut par rapport à la gestion de ces pays. Sinon, on ne va jamais léguer un pays plus beau qu'avant si chacun de nous va voir ses intérêts. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de stations de santé qu'on a en train de les avoir maintenant? Vous allez voir que c'est non. Pourquoi on le fait? On a l'esprit de détruire la nation. Alors, on laisse passer certaines choses. Je prends le cas aujourd'hui, il y avait possibilité, si le ministère de l'Urbanisme et Habitat travaillait bien avec des affaires foncières, sur la manière dont il devait mieux gérer la ville. On prend le cas des campings. C'est un coin érosif. Pourquoi ne pas délocaliser les gens qui sont là-bas? On construit une nouvelle cité. Et on vend. L'argent, on va arriver à vendre. On construit une nouvelle cité en face de Mama Mobutu, qui va coûter un peu moins cher, où les gens qu'on a enlevés des campings vont habiter là-bas, et l'État va gagner un peu de l'argent.
Bien, ingénieur Michel Oyumbu, vous êtes président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Est-ce qu'on peut, vous avez suivi ce que Jean Mangali a dit, il faut délocaliser les gens qui ont construit sur des terrains non édificants et puis aller les réinstaller ailleurs.
Merci beaucoup, M. Jody. Je salue M. Jean Mangali, dont je partage totalement les arguments et les idées. Et je l'ai suivi attentivement. On aborde dans le même sens que c'est l'État qui doit tout organiser, définir les grandes politiques publiques, définir la réglementation et ensuite mettre en œuvre cette réglementation-là. Même sur sa vision sur la délocalisation, je la partage, M. Jody. Vous savez, quand vous êtes ingénieur, que vous devez apporter une solution à un problème, vous devez évaluer qu'est-ce que ça coûte pour que j'apporte une solution. Imaginez-vous que vous devez sécuriser quelques habitations dont la valeur vénale de maison soit autour de 500 000 dollars. Et que vous devez vous apporter une solution d'ingénierie qui coûte 10 millions de dollars. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment rentable? Dans le cas où ce n'est pas rentable, la délocalisation serait la parfaite solution. Et on trouvera alors moins ou des solutions beaucoup plus faciles pour éradiquer ce type érosif-là. Donc, il y a une grande responsabilité de l'État à tous les niveaux et il y a une absence totale de politique publique à tous. Je partage complètement le même avis quand il a dit que la population ne peut pas arriver avant l'État. Alors, là, j'ai une suggestion très forte, c'est sur la révisitation de la loi foncière. Vous savez, mais aujourd'hui, dans ces pays, à l'époque de la colonisation, il était interdit aux chefs coutumiers de vendre les terres aux particuliers. Alors, si on veut revisiter notre code, notre loi foncière, et cette fois-ci, interdire aux chefs coutumiers, parce qu'ils sont des gardiens de terres, justement, l'État les reconnaît comme tels, ils sont des gardiens de terres, les interdire de vendre des terres aux particuliers et de ne les vendre qu'à l'État. Alors, dans ce cas-là, les choses vont s'arranger facilement, parce que l'État va racheter les terres des chefs coutumiers. L'État va les lotir, l'État va les viabiliser et nous allons réduire ces problèmes que nous sommes en train de constater dans toutes les villes, c'est-à-dire ces problèmes d'érosion. Donc, nous avons tendance peut-être à voir que les érosions ont détruit les maisons, mais je vais évoquer un autre aspect qu'on n'a pas évoqué depuis le début de l'émission. C'est les raisons par rapport, par exemple, à la qualité de l'eau. Vous savez, nous sommes sur la rivière Gili, au niveau du pont Gili, il y a un point de captage de l'eau de la régie, un peu de capteur de la régie des eaux là. La régie des eaux capte l'eau de la régie d'Angélie, amène le plus level qu'il n'y a pas vers la station de traitement. Mais les érosions qui se produisent en amont du passage ont tout
toujours comme effet négatif de polluer au maximum possible le eaux de la rivière. Ça signifie quoi? Si l'eau qui arrive au point de captage est totalement et beaucoup plus polluée, ça veut dire qu'il faut beaucoup de moyens pour retraiter cette eau. Il faut mettre beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'argent pour que l'eau qu'on donne à la population soit potable. Voilà encore des effets ou des conséquences des érosions ou d'une manière générale des conséquences des manques de politique publique en matière d'aménagement. Donc les conséquences sont vraiment, vraiment nombreuses. On peut se mettre à les énumérer, mais dans tous les cas, c'est l'État qui doit planifier. Donc le manque de politique publique ne permet pas qu'il y ait une planification sur la demande en logement, les offres de logement. Il n'y a pas de planification sur les types édificables et non édificables.
Michel Oyongo, voilà. Vous avez dit dernièrement ici qu'il existe un plan directeur, un schéma directeur de la ville, d'aménagement de la ville.
La ville de Kinshasa, ce qu'on appelle le SOFAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, le SOFAC, qui a été, je crois, promulgué par une idée du gouverneur André Kimbuta, je crois, 2017, c'est pas 2018, si ma mémoire est bonne. Mais ce schéma directeur n'est pas mis en œuvre. Monsieur, je dis, à quoi ça sert de disposer d'un schéma d'orientation de la ville, quand au niveau de la mise en œuvre, nous sommes comme quelqu'un qui veut construire une belle maison et qui paie les études, qui paie les frais pour qu'on élabore un très bon plan, mais finalement, il se met à construire autre chose. Alors, ça, c'est au même pour Kinshasa. Est-ce que les autres villes de la République disposent de plans d'aménagement? En tout cas, moi, je n'en sais pas. Mais je crois que Kinshasa a un schéma d'orientation de la ville qui n'est même pas appliqué. Vous avez suivi dernièrement, il y avait un conflit au niveau de Kinshasa sur l'école, parce qu'on était en train de lotir les terres agricoles. Est-ce qu'on peut se permettre de lotir les terres agricoles? Vous savez, dans la ville, on n'a pas besoin que les maisons d'habitants soient. Dans la ville, si on va vivre dans la ville, on doit bien sûr on doit travailler, on doit se déplacer, on doit se divertir, mais on doit aussi manger. Parce que ce sont des besoins que nous avons en tant qu'humains. Mais aujourd'hui, avec la pression démographique et avec l'anarchie qui règne dans le secteur, on est en train de lotir même les terres agricoles. Si vous allez un peu plus loin, à côté de l'arrière de la nationalerie à l'époque, ce quartier a été loti. Et pourtant, c'était un bas-fond. Si vous allez dans ce quartier aujourd'hui, vous allez voir une inondation terrible, des eaux qui se perdent parce que les stations, même pas vous s'écoulez pas. Globalement, ce désordre-là, que l'on peut constater comme étant un désordre organisé, continue à prendre place. Et malheureusement, c'est comme si l'autorité confirmée ne sont même pas intéressés à régler ce problème. Et voilà, nous serons en train de payer le prix d'un mauvais aménagement, alors que nous en payons déjà, et nous continuerons à payer le prix. Si nous pouvons néanmoins, à partir d'aujourd'hui, prendre des décisions pour que nous arrêtons ce désordre-là, le temps de régler les désordres qui ont été déjà causés.
Michel Oyongo, nous sommes en train de Michel Oyongo. Avec le retour des pluies, c'est parti jusqu'au mois de peut-être jusqu'en janvier. On aura des pluies, bon peut-être qu'il y aura encore des fortes pluies. Alors qu'est-ce qui doit être fait par exemple au site déjà érosif où il y a des érosions? Faut-il aménager rapidement des caniveaux ou aménager des bassins de rétention d'eau?
En tout cas, vous avez toute une série de solutions, mais je dis par rapport à l'ampleur du problème, mais pour les populations qui habitent des endroits qui sont vulnérables aux érosions, si un petit conseil que je peux leur donner, qu'ils essaient de trouver des moyens pour gérer localement les eaux de la parcelle. C'est-à-dire éviter que les eaux qui viennent de chez eux puissent divaguer ailleurs. Ils essayent au maximum possible d'avoir de la verdure à plusieurs endroits pour évidemment réduire la vitesse de ruissellement des eaux. Et ensuite, favoriser l'infiltration des eaux, qu'ils essaient aussi de créer des puits dans la parcelle. Mais c'est là qu'on peut faire avec beaucoup d'attention parce que s'il y a un puits dans la parcelle, si vous ne prenez pas des mesures de sécurité, eh bien, ça peut créer des noyades des enfants et ça peut créer beaucoup d'autres dégâts. Donc, ça, ce ne sont que des solutions précaires qu'on peut prendre, mais des solutions globales, c'est tout ce qu'on a essayé de montrer, des moyens de lutte. Le lutte anti-érosion avec des moyens de lutte préventive et de lutte curative, C'est cela, avec cela seulement que le problème est résolu d'une manière globale.
Bien, Michel Ouyoumbou, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, nous vous disons merci et excellente journée. Au Capé. Comment lutter contre les érosions qui menacent les villes de la RDC? Jean Mangalibi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Je disais tout à l'heure, avec le retour des pluies, on craint qu'il y ait des avancées rapides des têtes d'érosion. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait pour stopper les avancées de ces têtes d'érosion?
Bon, moi, je crois la première des choses à faire là-haut. On a commencé à lotir des endroits où on ne doit pas. Il faut d'abord stopper pour qu'on ne rajoute pas le nombre de têtes d'érosion. Ce qui est dommage, normalement, certains travaux qui devaient être faits pendant la saison sèche. Or, pendant la saison pluvieuse, même si on fait des collecteurs, si c'est les travaux sont inachevés, il y aura encore beaucoup plus de dégâts. Donc là, il y a dans l'immédiat... Si l'autorité pourrait prendre certaines mesures ou dispositions en accompagnant la population dans certains coins à gérer les eaux par maison, ça peut être une bonne chose pour ne fût-ce que réduire les volumes d'eau. Entre-temps, il y a dans certains endroits, comme tu l'as même dit tout à l'heure, là, on construit sur le collecteur. Est-ce qu'alors nous continuons à construire sur le collecteur? Est-ce qu'il faut défigurer les anciens quartiers,
oui,
comme on est en train de voir aujourd'hui. Hein, vous prenez le cas des je prends le cas de Kalamu. On a Yolo Nord, Yolo Sud, Kampindji. Au niveau des eaux, on a construit une école, on a carrément barré un grand collecteur. La finalité, cette route-là continue à s'abîmer. Mais pourquoi ne pas démolir? Je veux bien, c'est une école, bon, bien que c'est privé, mais c'est mal construit. Mmh. Aujourd'hui, nous ne devons pas voir l'intérêt d'un... Non, il faut voir l'intérêt général par rapport à la ville. S'il faut démolir cette école-là pour bien faire passer la canalisation, il faut le faire. On vient aussi la Capella. Quand vous allez aujourd'hui à Yolo Sud, mais ça, vous allez pleurer de voir la manière dont les immeubles sont en train de pousser. Savoir qu'il y avait 10 mètres... Oh non, il y avait au moins une quinzaine de mètres entre la canalisation, les caniveaux et les maisons. Mmh. On pouvait mettre ne plus que la pelouse pour absorber l'eau. Mais tout ça, c'est occupé par des bars. Je ne suis pas contre les gens qui font des bars, mais ça pourrait être déjà chez eux à la maison.
Les espaces verts, aujourd'hui...
Ça peut déjà permettre
aujourd'hui...
à ce que l'État puisse avoir assez de l'espace,
oui,
pour mettre les gazons, ne plus que pour couper la vitesse des eaux et commencer ne plus qu'à absorber une grande quantité d'eau. Vous venez ici aller peindre sur la route de Matad, de Kabila. Entre Upen et Masigita, là, on a déjà trois stations d'essence. Est-ce que ces stations d'essence devaient être à ces endroits-là? En sachant que là, en bas, il y a des collecteurs, il y a des câbles électriques, il y a les câbles d'eau qui passent par là.
Et on a moins de passe vers Jean Mangalibi.
Parce que, il y a, comme on a dit, quand on parle d'un plan, c'est un plan qui existe en théorie. Mais c'est fait que depuis il y a plus de 30 ans, les choses n'ont pas suivi. Pour dire que ça s'est aggravé pendant les 18 ans qu'on vient de passer. Mais là, on se disait qu'il y a un autre élan. Mais quand on descend sur le terrain, on se dit que mais quelque part là, est-ce que nous, Congolais, on a compris? Mais tant que nous n'aurons pas des institutions fortes, qui dit institutions fortes, c'est le respect de la loi. À ce moment-là, ça va, on va, même si on essaie de prendre des mesures pour ralentir, mais il y aura toujours des dégâts. Mais si ne puisque retracer Kinshasa, il y aura des dégâts, mais c'est lui qui a construit un mauvais endroit, il a mal construit, on rase. Prenons les cas, toutes les stations qu'on a en train de construire là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a lancé Kinbopeto. Excusez-moi. Là, on devait mettre les stations de transit. Aujourd'hui, on construit des stations d'essence. On quitte d'une pollution à une autre. L'autre, ça pouvait permettre à ce qu'on arrive à gérer tout ce qui est déchets de ménage. Sachez qu'aujourd'hui, la population... Je suis pas pour, mais seront obligés de jeter les déchets de ménage dans les caniveaux. Ça va être bouché.
Et il y aura des inondations, tout ça.
Voilà. Bien. Pour dire que l'État doit se réveiller, il doit prendre conscience, il doit savoir qu'il est là, c'est pas pour se faire de l'argent, il est là pour servir d'abord la population, le pays, et qu'il doit prendre les décisions par rapport à l'intérêt général. Alors, s'il peut commencer d'abord par raser, là, on a mal construit. Je crois qu'on va atténuer, parce qu'il y a tellement de toiture, qui dit excès de toiture, dû à
l'augmentation du volume d'eau.
Volume d'eau intense.
Oui.
Et la finalité, les caniveaux ne correspondent plus à la quantité d'eau. Il va avoir débordement.
Ruissellement sauvage. Débordement.
L'eau va commencer à couler là, il ne devait pas. Et puis nous aurons tous ces problèmes.
Bien, on va accueillir un auditeur, Pierrot de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, merci, Jody. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est Pierrot Mpanya de Lumbashi.
Nous parlons de la lutte contre les érosions qui menacent nos villes. Est-ce que Lumbashi aussi, certains quartiers de Lumbashi font face à ce problème également?
Bon, pas du tout. Il y a quelques têtes des érosions, mais quand même la terre qui est ici n'est pas une terre qui peut avoir beaucoup de problèmes. Mais quand même, il y a des dirigeants qui se mettent dans les travaux et qui essaient d'apporter leur savoir-faire là. Nous les disons tôt, nous donnons un coup de chapeau à ces dirigeants là. Je peux dire des gouverneurs qui est capable de tout faire. Là, je lui dis un coup de chapeau, mais en général, moi, je parle pour le pays. Vous savez, je dis, en République démocratique du Congo, nous avons eu beaucoup de projets qui concernent les infrastructures routières. Il y a beaucoup des organismes qui ont financé. Nous avons suivi même dans des émissions, des informations, où on nous dit que même la Banque mondiale peut-être finance ce genre de projet. Mais après tout cet argent qu'on nous donne comme information là, où vont cet argent? Parce que moi je vous dis, et je suis témoin oculaire, à Cabinda, ma province, où il y a des érosions qui ont coûté même la route nationale numéro 2. Imaginez, ici nous avons des routes nationales, des routes nationales, mais lorsque on vous dit que la route nationale numéro 2 est coupée, à quel niveau? C'est au centre-ville de Cabinda. Mais ça donne des frissons. Bon, je peux dire que j'ai assisté à ce genre de projets. Et ces projets-là nous ont aidés à découvrir d'autres horizons, parce que j'ai essayé de circuler aussi dans d'autres provinces où il y a aussi des avancées. Mais je me demande pourquoi seulement dans d'autres provinces, qui donc nouvelles provinces, il n'y a pas ces gens-là qui peuvent suivre, qui peuvent regarder le financement qu'on nous donne et comment ça se déroule.
D'accord.
Je peux vous demander ma question que je voulais vous demander.
Oui.
J'ai vu des projets. Les projets, on construisait des érosions. Il y a plusieurs érosions qu'on était en train de mettre fin au centre-ville de Cabinda là-bas. Mais on a amené les sacs. Ce sont des sacs. On met le sable.
Oui.
Oui, on met le sable. Ce sable-là, et puis on part, on arrache ça, et on met des rameaux. On est en train de planter des rameaux. Est-ce que cela peut garantir cette érosion-là et tout ce qui a déjà coupé?
Bon, on est en train de planter. Qu'est-ce qu'on est en train de planter?
Qui est en train d'aller vers même une université qui est en plein centre-ville. Il y a l'église catholique. Église Saint-Pierre de Kamukungu qui ne plie, et là où on ne prie plus parce qu'il y a une
telle érosion à côté
qui est là-bas.
Oui. Mais non,
à part ce que je vous dis, on n'a pas encore réalisé d'autres projets. Donc il n'existe pas d'autres moyens pour mettre fin à des érosions à part
Merci Pierrot. Merci. D'accord.
Il n'y a pas d'autres mesures où c'est par manque de foi ou c'est par manque de financement.
D'accord. Merci Pierrot. On va donner la parole à l'ingénieur Guy Bungubeti. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour
aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Agir Alternatif et vous faites la vulgarisation de la lutte anti-érosive à l'aide du vétiver. Vous avez suivi Pierrot de Lumbashi dire qu'il y a des gens qui font recours au sable, des sacs de sable qu'on place pour freiner le ruissellement des eaux des pluies et certains plantent même les bambous. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces méthodes-là peuvent aider à lutter efficacement contre les érosions?
Ces méthodes peuvent effectivement lutter contre les érosions de manière efficace, mais ça dépend de chaque cas d'érosion, ça dépend également de la manière dont la méthode est appliquée. Cela nécessite une étude du terrain, une étude de cause des érosions, afin de savoir quelle méthode convient le mieux. Et à mon avis, ce n'est pas des méthodes qui manquent. Et beaucoup ont montré leur efficacité, notamment celle du vétiver qui a montré ses efficacités partout ailleurs, et également qui a démontré qu'elle est d'un coût relativement faible et d'une application assez facile. Mais le gros problème, je pense que c'est qu'a dit un des prédécesseurs tout à l'heure, le gros problème, c'est le problème de gouvernance. On laisse des vallées sur les terrains, notamment sablonnés, se dénuder. On ne prend pas de précautions quand on autorise aux populations d'habiter de nouveaux quartiers. Il n'y a pas de mesures préventives suffisantes de lutte anti-érosive et à la fin, on a des dégâts. Mais à part cela, qui tient plutôt à la prévention, il y a même des manières correctives qui existent et dont certaines sont d'une simplicité déroutante. Mais nous arrivons quand même à des phénomènes d'érosion comme si il n'existait pas de technique efficace. Nous avons essayé plusieurs fois, à Kinshasa notamment, d'intéresser les autorités de la ville à la lutte anti-érosive par le vétiver. Mmh. Nous leur avons démontré par 1 plus 1 égale 2.
Ingénieur Guy, aidez-nous d'abord.
Hélas, c'est une question de gouvernance, c'est une question de volonté politique, je pense, finalement.
Ingénieur Guy, c'est quoi le vétiver? Et dites-nous comment le vétiver peut aider à lutter contre les érosions.
Le vétiver, c'est simplement une herbacée qui s'adapte très bien dans pratiquement toutes les conditions de la République démocratique du Congo. C'est une plante qui a la particularité d'avoir un enracinement très abondant et des racines très robustes. Ces racines-là donc peuvent s'enfoncer profondément dans le sol, dans tout le sol, et constituer ainsi comme une armature dans le sol, ce qui lui permet de maintenir le sol et donc de lutter contre le ravinement des eaux ruisselantes. À part ça, la partie aérienne de vétiver est également touffue et à la fois résistante et souple. Et si elle est placée à un endroit où le ruissellement est important, cette partie aérienne permet donc de freiner la vitesse de l'eau et de ce fait de freiner également le pouvoir ravinant de l'eau. Voilà, en très peu de mots, les caractéristiques du vétiver qui fait que quand on l'a planté à un sol érodible, il permet de freiner l'érosion. Et il peut aussi être utilisé de manière à la fois préventive et curative contre les phénomènes d'érosion.
Jean Mangalibi, certains font recours au vétiver, d'autres font recours au bambou pour lutter contre les érosions, ou soit des sacs de sable pour freiner l'avancement des érosions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces méthodes? Notre intervenant de tout à l'heure dit que on peut utiliser toutes ces méthodes, mais tant qu'il y aura une gouvernance chaotique, ça ne sert à rien.
Il a totalement raison. Parce que je prends le cas aujourd'hui, tu plantes un pied de vétiver, avant que ces racines arrivent jusqu'à 2-3 mètres, ça prendra du temps. Entre-temps, quand l'érosion a déjà commencé, on verra les dégâts. Tant qu'il n'y aura pas des gens d'une bonne moralité, parce que la politique aussi, la moralité, quand je dis la moralité, c'est avoir réellement l'amour de ce qu'on est en train de faire, pour ne pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on peut beau parler, la situation va démarrer. Si, exemple simple, moi je crois quand j'ai grandi, au niveau de Kibomango, il y avait les manœuvres militaires. Mais allez là-bas maintenant, on a presque tout loti. Ils avaient tout rasé. Maintenant, l'allotissement a repris. L'arsenal n'est pas encore passé. La rigide n'est pas encore. L'OVD n'est pas encore passé. Mais là, déjà...
Là, déjà, les gens
construisent
des maisons.
Là, maintenant, vous allez voir qui ces gens ont commencé déjà à construire.
Or, et il n'y a pas de caniveau.
Logiquement, quand il y a les pylônes électriques qui passent, on laisse au moins, si pas 30, 50 mètres avant de mettre des maisons d'habitation. Bon, les gens qui sont en train de lotir là maintenant, si vous y allez, ils lotissent même en dessous des pylônes pour dire qu'il y a des maisons. Déjà, il y a même une maison en étage qui est là vers, je crois, avant d'arriver vers fin Kinkole, où les pylônes, il y a une des pylônes de Inga qui est dans sa parcelle.
D'accord, tout ça
dans
c'est
une parcelle.
Oui, dans une parcelle. Tout ça, c'est des constructions. Voilà. Il y a des problèmes par rapport à l'aménagement, l'occupation des terrains. Merci Jean Mangali. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Merci d'avoir accepté notre invitation.
À moi de vous remercier.
Excellente journée.
Ok, à vous aussi. À vous.
Bien.
La solution est là.
La solution est là. On va accueillir Ruben depuis Kisangani. Bonjour.
Oui. Bonjour Monsieur le journaliste.
Ruben, quelle est votre préoccupation par rapport à la lutte anti-érosive?
Bon, comme je l'ai dit dans mon commentaire sur Facebook, le problème est devenu vraiment grave ici chez nous parce que vous allez remarquer que dans plusieurs routes de notre province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani, pose problème. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas des égouts, il n'y a pas de collecteurs pour canaliser de l'eau. Alors, il y a vraiment des conséquences qui sont graves. Par exemple, si vous prenez la route qui commence vers le camp Sergent Ketel pour aller vers le point kilométrique 5 ou 6, vous allez voir que la route est en délabrement très avancé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canalisation. Et vous allez même voir qu'il y a des insécurités qui se passent à chaque fois. Où on rate les téléphones en plein soleil à 19h, à 18h. Et c'est vraiment grave. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de canalisation. Donc, vous allez voir que les gens qui construit des routes, encore qui crée des routes, ne crée pas vraiment des canalisations qui peut canaliser de l'eau, ou encore des collecteurs qui peut rassembler de l'eau pour les ramener dans un point de chute, et cela crée des problèmes. L'exemple que j'ai donné, il y a tant d'exemples, par exemple, si on prend la route qui commence vers le point kilométrique 5 pour aller vers l'aéroport, c'est le même problème. Vous allez voir qu'il y a la dégradation des goudrons ou encore de l'asphaltage. Dégradé pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de canalisation de l'eau. Donc, la plupart des cas, surtout des terres à route qui sont ici chez nous, se dégradent facilement à cause des manques de canalisation de l'eau. Donc, c'est un peu le constat qui est juste fait ici chez nous.
Mais est-ce que la verdure ne protège pas les à côté, ces routes-là?
Non, il n'y a même pas.
Il n'y a même pas de verdure.
Il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment ça. Donc, on construit seulement des routes, on ne trouve même pas des canalisations, on ne trouve pas ni des collecteurs, ni moi des caniveaux, comme on l'appelle ici chez nous. Il n'y a pas. Vous allez voir qu'il supplée, et l'eau ramène tous les limites qu'on a posées, ça ramène les tout. Et ça part avec. Et vous allez voir qu'après 2 ou 3 mois, il n'y a plus une bonne route. La route qui mène vers Sergent Ketel jusqu'au niveau du point, il n'y a plus la circulation.
Il y a une tâche. D'accord. Merci.
On va dire, je te réponds pourquoi. Parce que cette route-là.
Merci Ruben de Kisangani. Ingénieur Guy Bungoubeti, pour terminer, vous avez suivi Jean Mangali, il a dit on peut bien planter le vétiver, mais le temps que le vétiver puisse s'enraciner au sol, l'érosion va déjà progresser.
Oh oui, mais là, ça signifie précisément que on dispose de connaissances pas suffisantes sur l'utilisation du vétiver. Évidemment, quand on plante les souches de vétiver, elles mettent du temps à pouvoir couvrir la surface. Alors, il y a pour cela des dispositions qu'on prend. Et le vétiver met 1 à 2 mois pour commencer à jouer son rôle de protection. Mais pendant ce temps, il faut prendre quelques dispositions. Il ne faut pas évidemment venir planter le vétiver en pleine saison de pluie pendant que les ravinements est en train de se poser. Non, ça se plante de manière préventive. C'est-à-dire qu'on peut le planter en début de saison de pluie, par exemple, quand les pluies ne sont pas très intenses. Et au fur et à mesure que les pluies viendront, eh bien, le vétiver aura déjà atteint une certaine taille et commencera déjà à lutter, à jouer son rôle de lutte contre les érosions. C'est une technique. Elle est très simple, mais il faut quand même savoir comment cela s'est fait. Quand nous plantons de haies de vétiver, ben, au début, on le protège quand même d'une manière qui peut sommaire. Ben, il est temps de permettre donc aux souches de vétiver de se développer et de commencer à résister au ravinement.
Bien. D'accord. Merci, ingénieur Guy Bungoubeti. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration d'Agir Alternatif et une structure, une ONG qui vulgarise le vétiver dans la lutte anti-érosive. Merci et à la prochaine.
Je vous en prie.
Bien. Nous avons en ligne Fiston Ilangi, urbaniste. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous nos auditeurs.
La ville de Kinshasa est menacée par plus de 300 têtes d'érosion et avec le retour des pluies, on craint qu'il y ait des avancées significatives de ces têtes d'érosion. Alors, en tant qu'urbaniste, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces érosions?
Merci beaucoup pour la question. Ben, nous devons observer ensemble que c'est presque chaque année qu'on fait pareille émission et c'est chaque année qu'on fait des suggestions. Ben, on constate que on ne matérialise pas cela et nous revenons toujours vers la case de départ. Érosion, ben, c'est quelque chose qui ne va pas m'étonner. C'est parce que en regardant la façon dans laquelle nos villes se développent, cela laisse à désirer et puis on constate directement que nos villes sont des villes exposées aux érosions. Pourquoi? C'est parce que on urbanise trop mal nos villes. Voyez, donc la ville de Kinshasa par exemple, la dernière fois qu'on a eu à faire un lotissement officiel, ça date de quelle année? Il faut se poser cette question. Ailleurs, par exemple au Burkina Faso, vous allez vous rendre compte que le ministère de l'urbanisme, le ministère des affaires foncières sont en train de travailler pour donner à la population un cadre déjà bien défini, bien aménagé, pour que la population vienne construire. Mais ici, ça ne se fait pas. Les lotissements ne se font pas. Ce sont les chefs coutumiers qui urbanisent la ville. Eh bien, or, les chefs coutumiers n'ont pas cette notion urbanistique. Ils font cela vaille que vaille. Et du coup, tous ces quartiers spontanés sont exposés aux érosions.
Alors, Fiston Ilangi, faut-il délocaliser ces gens qui ont construit sur des zones non édificantes et puis les relocaliser, les amener ailleurs?
Normalement, cette question devrait se poser pendant la saison sèche. C'est parce que là, on est presque dans la saison de pluie. Ça devient très compliqué. On est en train d'observer. Et très souvent, vous allez voir, lorsqu'il y aura érosion, lorsqu'il y aura la pluie, ainsi de suite, on va nous parler des deuils nationales. On va faire des discours, des beaux discours. On va prendre les obsèques en charge. Or, il fallait prévenir. Gouverner, c'est prévoir aussi. Ça, on devrait faire ça pendant la saison sèche. Mais nous sommes déjà pendant la saison de pluie. On n'a rien fait. Que ce soit pour les inondations, on n'a rien fait. Que ce soit pour les érosions, on n'a rien fait. On est maintenant bloqué. On est peut-être surpris, mais pas surpris. On est là pendant la saison de pluie. Ça devient très compliqué. On peut toutefois les délocaliser, mais par expérience, on dit toujours comme cela, on doit délocaliser. Mais délocaliser pour les amener où? Dans quelles conditions d'habitabilité? L'année passée, les ministres de l'urbanisme nous avaient promis de délocaliser tous ces gens qui étaient inondés dans les érosions, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous montrer un endroit où l'urbanisme, le ministre de l'urbanisme a aménagé une trame d'accueil et assaini pour accueillir tous ces sinistrés? Non! Donc ce sont des discours que nos politiciens, des fois, avancent comme cela pour essayer un peu de distraire la population qui ne sont pas mieux informées. Donc, il y a possibilité de le faire s'il y a la volonté politique. On peut préparer une trame d'accueil et assaini pour accueillir tout ce monde-là, mais dans les contextes congolais. Cela ne va pas se faire.
Fiston Ilangi, pour certains, il faut plutôt revoir les canalisations d'eau, les collecteurs, tout ça, et bien les aménager, les arranger pour accueillir les eaux des pluies, qui sont souvent la base des érosions.
Je veux bien, mais cela devrait se faire avant la saison de pluie. Ce n'est pas pendant la saison de pluie qu'on va amorcer tous ces projets. Ça devrait se faire avant. On devait prévenir.
Maintenant qu'on est en plein saison de pluie, qu'est-ce qu'il faut faire, Fiston Ilangi?
Ah ben maintenant là, ça devient très très compliqué, et dans les contextes congolais, on connaît tous comment est-ce que les choses fonctionnent, ça devient très très compliqué, donc on est exposé, on doit s'attendre à tous les maux du monde, c'est parce que là, on est vraiment exposé, parce que si on se dit même aujourd'hui, on s'y gère, on se dit ben voilà, on doit viabiliser le site, on doit faire des caniveaux, on doit curer patati patata, mais nous sommes déjà pendant la saison des pluies, ça sera très compliqué. Donc à ce stade, que les bons dieux puissent nous aider tout simplement, c'est parce que c'est comme si on n'est pas gouverné, hein, excusez-moi, c'est comme si on n'est pas gouverné, or gouverner c'est prévoir. Pendant tout ce temps, pendant la saison sèche, on devrait déjà commencer à penser pour ça. L'opération qui nous pète tout ce monde-là, on devrait intégrer tous ces aspects des choses. Mais on attend pendant la saison des pluies, et pendant ce moment que nous sommes en train de faire la mission, rien n'est encore fait. Mais je me dis, mais attends, le peuple est d'abord devrait aussi passer dans l'urbanisation des villes, dans la viabilisation, dans l'amélioration des conditions d'habitabilité de la population.
Fiston Ilangi, une ville comme Kinshasa, avec plus de 12 millions d'habitants, la pression démographique, l'occupation anarchique des terrains, alors c'est pas en un seul jour ou en peu de temps qu'on peut revoir et corriger tout cela.
Bon, ben là, vous avez raison. Ben, je vais bien. J'ai dit tout simplement, il fallait anticiper. On ne doit pas attendre que le mal puisse arriver pour commencer à créer, à chercher des solutions, vaille que vaille. Non, il y a possibilité de faire la planification de la chose. Kinshasa, ben voilà, Kinshasa, c'est une ville de plus de 12 millions d'habitants qu'on vous avancez. D'ailleurs, ce sont des hypothèses qu'on n'a pas encore jusque-là vraiment maîtrisé la taille de la ville de Kinshasa. Mais attends, la ville de Kinshasa, c'est une ville en problème. Donc nos autorités, cela devrait forcément nous les interpeller pour dire qu'il y a un sérieux problème dans les secteurs d'urbanisme. Il y a un sérieux problème dans nos villes. Le gouvernement devait prendre en charge cet aspect des choses. Mais malheureusement, on est débordé par les histoires CAS, FCC. On est débordé sans pour autant prendre aussi en considération cet aspect des choses. Ce secteur-là vital, ce secteur-là salvateur, on laisse ça comme ça. Si c'est la politique, on va voir des mobilisations par-ci, par-là. Donc, on est dans les sensationnels politiques. Mais or, il y a des secteurs qui touchent à la vie de la population. On néglige cela au profit de la politique. Aujourd'hui, c'est seulement la politique. Or, si au moins on était vraiment, on avait un bon cœur, on devrait aussi faire des mobilisations comme on fait maintenant par rapport à ce qui concerne la consultation, cette histoire de casse,
d'accord,
ainsi de prestations de serment.
Fiston
Mais
Ilangi,
on n'est pas mobilisé pour ces choses qui touchent à la vie des hommes, à la vie des Congolais. On laisse ça comme cela parce qu'on s'est dit non, ça ne va pas, on laisse ça comme cela. Mais si on était conscient, on devrait se mobiliser comme un seul homme. On devrait s'unir aussi, on devrait faire des unions sacrées. Par exemple, pour l'habitat, les unions sacrées, pour les embouteillages de la ville de Kinshasa, les unions sacrées pour la pénurie d'eau, la pénurie d'électricité.
Fiston Ilangi, merci. Merci, je rappelle que vous êtes urbaniste. Merci d'avoir participé à cette émission. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Avec nous, nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après.